Le Seigneur vous bénisse et nous encourage les uns les autres. Ça fait plaisir de se retrouver pour partager la parole de Dieu et tout ce que la parole a à nous dire aujourd'hui. Eh bien, nous allons prendre un texte biblique dans la première épître de Pierre, 1 Pierre au chapitre 2, et nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 10. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est écrit dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion la pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Voilà, nous avons beaucoup de choses précieuses dans ce texte. Hein. C'est d'abord le premier verset est une parole étrange que Pierre. Excusez-moi, on a tellement l'habitude. Il y a 13 épîtres de Paul et il y en a 2 de Pierre. Alors on a plus l'habitude d'être dans Paul que dans Pierre. Mais Pierre est très précieux aussi et il nous enseigne beaucoup de choses intéressantes. Mais le premier verset est une remontrance. C'est rejetant. Alors vous êtes très surpris de lire la malice, la ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance. C'est des choses terribles. Quand je me suis converti, Jésus-Christ est devenu mon Seigneur. Il est devenu toute ma vie. C'est d'un coup, j'ai accepté le Seigneur Jésus et je suis parti pour le servir. Donc, 4 mois après le moment où je me suis converti, j'étais dans un institut biblique pour apprendre et entrer dans le ministère. Donc, c'était quelque chose de très fort. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. C'était quelque chose de tellement puissant, de tellement inoubliable, qu'encore aujourd'hui, après, en 2019, il y aura 50 ans que le Seigneur Jésus est devenu mon sauveur. Et encore en parlant, j'ai de l'émotion dans la voix de ce qui m'a tellement aimé et qui m'a sauvé. Ça a été pour moi quelque chose d'immense, immense. C'est le pasteur qui était le pasteur de l'église, c'était un ancien prêtre. C'est pas lui qui m'a amené au Seigneur, mais c'était un homme doux. C'était un homme humble, un homme paisible. C'est quand il prêchait, il avait le regard toujours posé sur sa Bible. Jamais il regardait les gens. Il était tout rouge quand il prêchait, mais vraiment rouge. Et parfois, il avait des sanglots dans la voix quand il prêchait. Et vous saviez ce qu'il se passait dans l'église? Les personnes se moquaient de lui. Il n'était pas un bon pasteur. Un bon pasteur, il aurait eu de la poigne. Il aurait montré qui il était. Il aurait une pointe d'orgueil, de supériorité, tout ce que les gens apprécient. Eh bien, il l'aurait respecté. Mais cet homme qui était humble, qui était doux, qui était paisible, il était méprisé. Parce qu'il prêchait en pleurant et parce qu'il était rouge. Quand il lisait la parole de Dieu avec tremblement. Il savait d'où il venait. Il venait du catholicisme. Il avait adoré des idoles. Il s'était prosterné devant des images faites de main d'homme. Et il s'était rendu compte à quel point il était coupable vis-à-vis de Dieu. Sa femme, c'est une ancienne bonne sœur. Il vivait dans la pauvreté et dans la misère. J'ai vu cet homme m'inviter tous les dimanches où j'étais présent. Il m'a invité à manger. Mais il coupait les tranches de pain très fines, hein, vous savez, parce qu'il n'avait pas tellement les moyens. Et moi, à 19 ans, j'avais un appétit de 19 ans. Et je me limitais dans mon appétit, parce que il n'y avait pas beaucoup à manger. Mais c'est, voyez, le serviteur de Dieu qu'il était. Il était avec le Seigneur. Je suis ému, vous savez. Et je suis certain que cet homme a une couronne. Et que ceux qui l'ont méprisé, eh bien, ils auront s'ils étaient chrétiens. Je ne sais même pas s'ils étaient chrétiens. Et quand je suis rentré à l'Institut biblique, j'ai cru que je rentrais dans un sanctuaire, l'endroit où vraiment un frère allait me dire, ah, tu peux pas prier. J'étais prêt à prier n'importe quel, hein, on m'aurait dit. Et je rencontrais la malice, la ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. Dans l'école biblique qui formait les serviteurs de Dieu. J'ai rencontré ces choses-là. Je peux vous dire, dans les 3 premiers mois, j'ai failli faire une dépression. J'étais tellement mal d'avoir rencontré ces choses-là. J'ai cru. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, au fur et à mesure, je m'y suis fait. Je me suis dit, on est loin, loin, loin de la perfection. Vous savez, je voudrais vous mettre en garde. Je ne veux pas prêcher pour prêcher. Je ne veux pas perdre le temps et perdre mon temps et perdre votre temps. Parce qu'il y a autre chose. Nous avons un jour un rendez-vous avec Dieu. Un jour, nous devons être dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est une chose sérieuse. Ce n'est pas peut-être que c'est on va vivre encore. Mais que le temps soit court ou qu'il soit long, que vous ayez devant vous 20 ans ou 30 ans ou 1 an ou 2 ou 6 mois ou 3 mois ou moins que cela, un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, vous allez rencontrer Christ face à face. Et à ce moment-là, où seront les ruses, les médisances, les calomnies et toutes ces choses qui ont pavé votre vie et votre langue? C'est quelque chose, vous savez, on doit être mis en garde. Et dès le début de ma vie chrétienne, j'étais confronté à cela. Les serviteurs de Dieu que j'ai estimés, j'ai rencontré des médisances et des calomnies. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais je ne veux pas rester là. C'est juste mon introduction ce matin. C'est pour vous dire, ces choses-là existent. Ce ne sont pas les autres, ça peut être vous. Ça peut être n'importe qui se laisse aller à la médisance, à la ruse, à la dissimulation, à la calomnie. Je peux rajouter encore d'autres choses, et vous pouvez mettre encore des noms sur vos péchés favoris, et sur les choses qui vous troublent, et les choses qui vous amorcent, et les choses qui hein. Mais Pierre ne s'arrête pas là. C'est juste le premier verset. Il y a 9 autres versets. Il commence ce chapitre avec comment dire. C'est cette recommandation rejetant, rejetant. Il y a une action positive, une action décisive. On dit ces choses-là, je ne veux plus les tolérer dans ma vie, une seule seconde. Après, vous dites, je suis orgueilleux, je suis ceci, je suis cela. Il y a des péchés qui font souffrir et qui sont longs à partir. L'orgueil, par exemple. Mais quand il s'agit de ruse, de malice, de médisance, des choses comme ça, d'un coup, on peut dire c'est fini, terminé. Cette affaire-là, je la clôt d'une manière définitive. C'est notre responsabilité. Il y a des péchés qui font partie, on pourrait quasiment dire, de notre nature. Nous sommes humains et c'est notre humanité qui se manifeste. Et d'autres, c'est notre laisser-aller. On a la langue qui parle vite, on a des attitudes qui sont mauvaises, etc., etc. Et c'est pour cela que Pierre dit, rejetez ces choses-là, rejetez, et choisissez. Hein. Et c'est là que nous entrons dans la chose la positive, hein, dans ces paroles positives. Il désirait, désirait, cherchait. Et ayez la passion de ces choses. Ne les laissez pas passer à côté de vous. user peut-être d'imagination pour les obtenir. Il y a des. Je veux raconter une expérience personnelle. Il y a quelques années, j'ai eu un très très grave problème et j'ai dû passer du temps dans le jeûne et la prière. Et j'ai passé beaucoup de temps. Je peux vous dire qu'on peut jeûner longuement et être pleinement en forme. Et bon, vous ne pouvez pas faire 100 mètres, hein, mais néanmoins, vous pouvez faire les choses de la vie courante. Hein. On est beaucoup plus résistant qu'on le pense. Et puis, j'étais dans l'affliction, dans le désespoir. J'ai prié dans le jeûne. Et voilà. Mais je n'ai pas obtenu la réponse. Hein. La personne avait décidé de se livrer au péché et elle est dans le péché. Elle a pris sa décision. Voilà. Mais par contre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que des péchés avaient disparu de ma vie. Des choses qui m'avaient fait souffrir et qui me tenaient depuis une trentaine d'années, c'était fini, terminé. Et je ne l'ai pas demandé, je ne l'ai pas cherché, mais c'est arrivé. Et je rends grâce à Dieu de cela. C'est pour vous dire, je ne l'ai pas cherché et c'est arrivé. Mais si je l'avais cherché et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, eh bien, j'aurais obtenu la victoire. Donc, il y a un désir, il y a une soif d'aller plus loin. C'est la vie chrétienne, ce n'est pas de vivoter la vie chrétienne, c'est pas de faire des sauts de puce dans la vie chrétienne, c'est pas de un jour je suis bien, le lendemain je suis moins bien et après je suis encore pire, et puis de nouveau ça revient, et ce n'est pas une vie chrétienne en dents de scie. La vie chrétienne, c'est une vie triomphante, c'est une vie glorieuse, c'est une vie ressuscitée. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et alors c'est là que tout notre espoir se fonde. Nous sommes dans une perspective immense, immense. Vous pouvez choisir et vous laisser aller à des débordements et à toutes sortes de choses. Mais vous pouvez désirer et vouloir et être passionné. Excusez-moi de dire, j'ai pas un mot meilleur qui me vient, hein. Mais avoir, parce que comme les passions, c'est quelque chose de très fort, hein. C'est avoir un fort désir de vie propre, de vie à la gloire de Dieu, de vie utile, de vie fructueuse. Et vous savez, c'est à cela que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à vivoter la vie chrétienne. Nous ne sommes pas appelés à vivre au niveau du plancher, mais Dieu nous a appelés à vivre une vie céleste. C'est une vie qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Vous avez ce petit insecte, hein, qui rampe une partie de sa vie et qui devient papillon. Tous les papillons, hein, passent par cette métamorphose, cette transformation. Ils rampent. Et puis un jour, ils deviennent des papillons. Ils sont ressuscités. Hein, ils s'endorment dans la terre, ils font un cocon dans la terre. Et puis un jour, eh bien, ils sortent et ils sont ressuscités. Et ils ne rampent plus sur la terre. C'est une autre nature. Ils changent de nature complètement. Alors que vous aviez une chenille qui rampait, il est mort. Il ressuscite. C'est une merveilleuse image que Dieu nous a donnée dans la création de ce que nous sommes en tant que chrétiens. Il y a un moment où nous sommes ressuscités. Et c'est la vie de résurrection. Dieu nous appelle à une vie de ressuscité. C'est une vie dans une autre dimension. Vous avez connu une vie en tant qu'inconverti, dans toutes sortes de débordements, peut-être la débauche, peut-être vous aviez été un honnête inconverti, ou je ne sais pas, hein. Mais tout cela c'est du passé. Nous sommes passés à autre chose, nous sommes nés de nouveau, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons une autre dimension, nous avons d'autres perspectives, nous avons un autre avenir. C'est quelque chose de merveilleux, qui dépasse tout ce que l'homme peut imaginer ou penser. Et Satan essaye de nous maintenir en bas et de nous dire, tu ne réussiras pas, tu n'y arriveras pas. Et je peux vous dire, ça c'est par ma petite expérience personnelle, pendant des années de ma vie, j'ai essayé et je me suis battu avec ma mauvaise nature. Et il y a des choses, bon, bien sûr, je ne les faisais pas. Mais d'autres, j'étais bien coupable et je m'en affligeais tous les jours et je pleurais sur mon sort, hein. Et j'essayais, 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 toutes mes luttes étaient vaines. Et un jour, j'ai découvert une chose, c'est que j'étais ressuscité. J'étais vivant. J'étais mort en tant qu'inconverti. Et là, un jour, quand j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, j'ai été vivant. Et alors, j'étais responsable pour vivre dans la vie, pas vivre dans la mort. Et toutes mes luttes en tant que personne qui restait dans la mort étaient vaines. Mais à partir du moment où je suis ressuscité, je suis vivant pour Dieu, je marche à la gloire de Dieu, je regarde vers Dieu, il y a quelque chose qui change. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. C'est quelque chose, vous savez. Satan essaye de vous faire croire que c'est le péché a du pouvoir sur vous. Mais il n'en a plus, parce que vous êtes vivant. Vous n'avez pas encore compris, mais vous êtes vivant. J'ai raconté l'histoire à plusieurs reprises, mais c'était un homme qui. C'était à l'époque où les bateaux faisaient le voyage entre les États-Unis et la France et l'Europe. Bon. Et il n'y avait pas d'avion à cette époque. C'était très dangereux. S'il y avait des avions, c'était dangereux. Et alors, il avait acheté, c'était un migrant, je pense, qu'il allait d'Europe en Amérique, parce que c'était cette direction-là que faisait la migration des peuples, fin du 19e, début du 20e. Et alors, il avait acheté un billet, mais vraiment le minimum, 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 hein. Il était dans l'entrepont. Et alors, il avait acheté de la nourriture et il se disait, je vais manger tranquillement, je ne vais pas mourir de faim quand même. J'ai acheté le minimum, mais je ne vais pas mourir de faim. Donc il a emporté de la nourriture. Et au fur et à mesure, eh bien, il n'y avait pas de frigo, hein. Alors les choses se rancissaient, le pain devenait de plus en plus dur. Et puis, un jour qu'il était sur le pont, il rencontre le capitaine. Le capitaine lui dit, qu'est-ce que vous faites là? Alors il a dit, mais j'ai payé ma place, hein. Ah ben il dit, oui, je me rends compte, vous avez payé votre place, mais je ne vous ai jamais vu. Ah ben il a dit, je suis toujours dans ma cabine. J'ai payé le minimum minimum, alors je suis toujours dans ma cabine. Et le capitaine lui dit, mais je vous ai jamais vu dans la salle à manger. Ah ben j'ai payé un billet pour le minimum. Je dis, mais dans votre minimum, il était compris, votre repas aussi. Et alors cet homme tombé de la lune, pendant je ne sais combien de jours, il avait mangé du pain rassis, du fromage rancis et des choses comme ça, alors qu'il pouvait manger à table. Il y avait son repas qui était prévu dans le prix du billet. Et dans la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. Satan essaye de nous faire croire que vous êtes en dessous, vous n'y arriverez pas. Mais non, ce n'est pas possible. Tu te rends compte? Et combien de fois nous avons entendu parler de la vieille nature? Ah, c'est un mot qui est précieux aux chrétiens, hein. Ils aiment bien parler, c'est ma vieille nature. Donc je fais rien. Je ne suis pas responsable. C'est ma nature. Vieille, mais ma nature. Mais en Christ, c'est fini tout ça. Nous avons la capacité de dire non. Nous avons la capacité de dire non. Parce que nous avons dit oui à Christ. Si vous n'avez pas dit oui à Christ, vous ne pouvez pas dire non au péché, à la tentation. Mais c'est vrai que le péché est fort. C'est vrai que la tentation est, hein, convaincante. Mais vous pouvez dire non. Vous pouvez dire non. Et je l'affirme. Parce que vous avez dit oui à Christ. Parce que vous êtes sauvé. Parce que vous êtes ressuscité. Parce que vous avez une autre nature. Parce que vous avez une nouvelle nature. Ces choses-là ne peuvent pas dominer sur vous. Et vous les tolérez, mais vous êtes coupable d'autant plus parce que vous êtes chrétien. C'est un inconverti, c'est sa nature, tout simplement. Il vit dans le péché, il est coupable, il est condamné, et Dieu un jour prononcera un jugement sur lui, une condamnation. Mais nous, nous sommes chrétiens, et nous sommes d'autant plus coupables parce que nous pouvons dire non. C'est, relisez l'épître aux Romains, et le chapitre 6 en particulier. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous n'avons plus. Nous pouvons dire non. C'est quelque chose, vous savez, c'est un message de triomphe, c'est un message de ressuscité. Mais on ne peut pas rester là, parce que notre vie chrétienne n'est pas une lutte contre le péché, et avec des victoires sur le péché. Le péché n'est pas, comment dire, le terrain de manœuvre, si je puis m'exprimer ainsi, hein, pour ceux qui sont militaires. C'est, il y a un terrain, mais non. Il y a beaucoup plus que cela. Et Pierre nous donne, il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie et précieuse devant Dieu. Vous édifiez-vous, faites des... Nous ne sommes pas appelés à lutter contre le péché, nous sommes appelés à vivre pour Christ. C'est cela le meilleur. Et c'est dans cette lutte, c'est dans cette vie pour Christ que la lutte contre le péché est bien, est gagnée. C'est... Alors, il dit, hein, comme des pierres vivantes, hein, donc la pierre vivante, Pierre nous parle de la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, et puis il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Christ est la pierre rejetée. Et nous sommes aussi rejetés par les hommes. Hein. Donc il y a une similitude parce qu'il y a une même nature. Nous sommes liés avec Christ. C'est quand il est mort sur la croix, nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Nous n'étions pas nés, mais nous l'avons été. Alors ça, c'est quelque chose que je ne peux pas tout vous expliquer. On a trop peu de temps. Mais en tout cas, une chose est certaine. Nous étions... mort avec Christ. Paul disait aux Galates, j'ai été crucifié avec Christ. Mais Paul n'a pas été mis sur la croix avec Christ. Mais il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Quand Christ a été crucifié, Paul a été crucifié. Et moi aussi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ah, c'est un triomphe. C'est quelque chose de merveilleux. Ça dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Mais donc, nous sommes des pierres vivantes. C'est... Christ est rejeté, nous sommes rejetés. Christ est vivant et nous sommes vivants. Et nous sommes des pierres. Et il y a une édification. Alors, le mot édification en français a deux sens. Hein. On peut s'édifier les uns les autres, hein, s'encourager. Mais édification, c'est monter aussi, c'est bâtir. Et donc, les pierres s'édifient les unes les autres et les unes sur les autres. Il y a une construction. Nous sommes des éléments disparates. Voilà. Vous êtes né dans un peuple, moi dans un autre. Je suis né dans une culture, vous dans une autre. Vous êtes né d'une certaine manière, moi je suis né d'une autre manière. Et etc., etc. Vous pouvez, l'éducation et toutes ces choses qui font que nous sommes très différents les uns des autres. Mais en Christ, nous sommes un corps. Toutes ces différences, elles disparaissent. C'est quelque chose de merveilleux, vous savez. Et on s'édifie les uns les autres. Je ne grandis pas tout seul. Je grandis avec vous. Et je grandis grâce à vous. Mais vous grandissez avec moi. Et vous grandissez grâce à moi. Nous sommes dépendants. Nous sommes interdépendants les uns des autres. Nous sommes un corps en Christ. Nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de votre amour fraternel. Vous avez besoin du mien. J'ai besoin de vos prières. Vous avez besoin des miennes. Vous avez besoin de mon enseignement, mais j'ai besoin du vôtre. Vous étiez le pasteur, c'est vrai, mais vous m'enseignez et j'apprends beaucoup de choses avec vous. C'est quelque chose de merveilleux. Nous sommes des pierres vivantes et nous ne sommes pas une pierre déposée dans un coin. Parce qu'une pierre déposée dans un coin ne sert à rien. Vous ne bâtirez jamais une maison avec une pierre qui est déposée dans un coin. Mais la pierre pour bâtir une maison n'est utile que dans la mesure où il y a d'autres pierres. Et il faut que les pierres soient ajoutées les unes aux autres. Et c'est une construction, c'est une édification. Et l'architecte qui fait tout cela, c'est Dieu, à condition que vous le voulez bien. Dieu ne fera jamais rien sans votre aide, sans que vous le vouliez. Dieu vous a rendu participant des choses. Nous ne sommes pas passifs. Nous n'attendons pas, voilà. Il y a des chrétiens qui attendent. Oh ben, j'attends. Il y a un pasteur, disons pasteur, non. Il avait dit, j'ai un appel de Dieu, mais j'attends que Dieu le confirme. 20 ans après, il attendait encore. Et je ne sais pas s'il est toujours en vie, mais s'il est toujours en vie, il attend encore, j'en suis persuadé. Parce que vous pouvez attendre toute votre vie sans prendre jamais aucune décision. Il y a un moment où on décide et on dit, les choses vont changer. Je suis dans un corps et je marche dans ce corps et je choisis d'être édifié dans le corps de l'Église. Je m'intègre à l'Église, je travaille dans l'Église, je fais en sorte que l'Église grandisse. Je ne suis pas passif dans l'Église. Parce que si vous êtes passif, vous essayez, vous écoutez un message, et puis vous vous levez, vous partez. Dimanche suivant, ben c'est la même chose. Et de dimanche en dimanche, vous ne changerez pas. C'est quand vous vous intégrez à l'Église, quand l'Église devient une partie de vous-même, quand l'Église devient importante, quand vous priez pour l'Église, quand vous intercédez, quand vous luttez pour l'Église, quand vous manifestez dans l'Église, là, il y a une vraie croissance. Et parce que vous vous édifiez, vous faites partie de l'Église. Et là, c'est beaucoup plus que d'être membre. On peut ne pas être membre et quand même être dans l'Église un élément constructif, constructeur, qui travaille à la progression de l'Église et à l'édification de l'Église. Ne soyez pas des chrétiens passifs. Parce que, en fait, Pierre va beaucoup plus loin. Et il nous montre la grandeur, l'immensité de la chose qui dépasse tout ce que l'homme peut imaginer ou penser. Vous avez fait des rêves. Ils sont au-dessous de la réalité que Dieu a prévue pour vous. C'est vos rêves les plus insensés, les plus grandioses, les plus... jamais même vous... Les choses que vous n'avez même pas imaginées, eh bien Dieu les a prévues pour vous. Sauter une page. C'est un saint sacerdoce. Voilà. Une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Qu'est-ce que c'était que le sacerdoce? Alors, il y avait en Israël 12 tribus. Il y en avait 13, en fait. Mais il y en avait la 13e, c'était la tribu de Lévi. C'était une tribu, Dieu avait dit, cette tribu n'a pas d'héritage en Israël parce que moi, je suis son héritage. Il n'y a pas de possession terrestre. C'est Dieu lui-même avait dit, c'est moi, l'héritage de cette tribu. Donc ils sont consacrés à mon service, entièrement. Et ils n'ont pas besoin de terre, ils n'ont pas besoin de toutes ces choses. C'est moi qui suis leur travail. Et ils sont là pour enseigner le peuple, pour... c'était toute la... tout le sacerdoce, voilà. Et il y avait un souverain sacrificateur, il y avait des sacrificateurs, il y avait les lévites. Voilà, c'était les trois catégories de la tribu de Lévi. Donc, c'était un privilège immense. Ils avaient, de la part de Dieu, un choix, c'était un choix de Dieu. Je ne vais pas raconter toute l'histoire de cette tribu de Lévi, mais c'est quelque chose de précieux. Mais quand il dit, là il parle d'un saint sacerdoce. Le sacerdoce lévitique a été aboli parce que Jésus-Christ est mort comme le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Ça c'est l'épître aux Hébreux. Donc si vous voulez, toutes ces choses vous les retrouvez dans l'épître aux Hébreux. Nous sommes devenus, parce que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, nous sommes sacrificateurs aussi. Une nation de sacrificateurs. Nous devons offrir des sacrifices à Dieu. Alors ces sacrifices, ce sont des louanges, c'est du témoignage, c'est servir les uns les autres, s'occuper du frère, de la sœur. Tout ça, c'est au service de Dieu, sous l'ordre du souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Nous sommes dans un saint sacerdoce. Ce n'est pas une petite chose. C'est quelque chose qui dépasse tout ce que l'homme peut imaginer. Jamais nous n'aurions imaginé cela. Comment ? Dieu nous demande d'être à son service. Mais vous dites, mais je ne suis pas ni pasteur, ni... Vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, Vous êtes réconcilié avec Dieu. Vous êtes au service de Dieu. Vous êtes un saint sacerdoce. Et même, il dit, hein, pour offrir, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est... Et puis, le verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Et alors, je vais vous dire, comment nous nous arrêtons encore à la médisance, à la malice, à la ruse et à toutes ces des choses comme cela, alors que Dieu nous a offert quelque chose d'immense, quelque chose qui dépasse tout ce que l'homme peut imaginer ou penser. Dieu nous a offert que nos bouches, que nos pensées, que nos cœurs soient à son service, que nos mains soient à son service. Je me rappelle, il y a quelques années, un jour, je me suis réveillé, c'était un matin, c'était après un moment de prière, et j'ai passé du temps avec le Seigneur, mais je me suis réveillé le matin. Je dis, mais mes mains, ces mains, c'est pas mes mains, c'est les mains de Christ. Mes yeux, c'est pas mes yeux, c'est les yeux de Christ. Je ne peux pas faire de mes mains ce que je veux. C'est Christ qui les utilise. Elles sont à Christ, elles ne sont pas à moi. Je ne m'appartiens pas à moi. J'appartiens à celui qui a donné sa vie pour moi, à celui qui m'a sauvé. Je suis à son service. Ses mains sont à son service. Je me rappelle, c'était dans un train en Chine. Il y avait trois chrétiens chinois qui étaient... deux chrétiens chinois. Ils étaient assis. Et puis, il y avait d'autres dans le compartiment. Alors, ils s'ennuyaient parce que les voyages sont quand même longs en train, et surtout à cette époque. Et pas de climatisation, pas de... beaucoup de choses qu'on connaît maintenant, c'était juste le train, quoi. Ça allait rapidement d'un point à l'autre. Rapidement, à cette époque, c'était pas trop rapide. Mais tout le monde s'ennuyait. Et alors, il y en a deux qui ont mis une valise entre devant les chrétiens. Ils ont sorti d'un jeu de cartes. Ils ont dit, on va jouer aux cartes, si vous voulez bien. Ils ont dit, non, on ne joue pas aux cartes. Mais comment vous ne jouez pas aux cartes? Alors ils ont dit, nous sommes chrétiens. Mais comment un chrétien, ça n'empêche pas de jouer aux cartes? Ils ont dit, mais oui, mais ces mains ne sont pas à nous. Elles sont à Christ. Et c'est des années plus tard que j'ai compris cela. Il m'a fallu bien longtemps. Ce chrétien chinois qui n'était pas serviteur de Dieu savait. Moi, il m'a fallu des années pour le comprendre. Mes mains ne sont pas mes mains, elles sont à Christ. Mais mon cerveau n'est pas moi, il est à Christ. Ma personne ne m'appartient pas, elle est à Christ. Elle est pour son service, elle est pour sa gloire, pour offrir des victimes. C'est sainte, c'est des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ma vie chrétienne, elle lui appartient, elle n'est pas à moi. Elle est pour son service, elle est donnée à Christ. Elle est pour que Christ soit vivant, reconnu vivant, que Christ soit annoncé, que Christ soit prêché. Et toute ma vie n'est pas à moi, elle est à Christ. C'est un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Vous savez, ce sont des paroles que je vous entendais, des paroles prononcées par un être humain. Mais c'est là ce que j'essaye de vous enseigner, de vous faire connaître aujourd'hui. Il n'y a que dans l'éternité que vous allez le comprendre. Parce que aujourd'hui, nous sommes limités dans nos paroles, dans nos pensées, dans notre compréhension. Il y a des choses qui nous dépassent, qui sont plus grandes que vous pouvez l'imaginer. Vous êtes appelé à beaucoup plus que vous l'imaginez. Notre vie terrestre est limitée. C'est limité dans l'espace, limité dans le temps, limité dans les moyens, limité de toutes les manières. Mais nous sommes appelés à ce que cette vie, eh bien, soit à la disposition de Dieu. Dieu veut l'utiliser. Dieu veut faire de nous un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal.
Mais c'est pour cela, il faut s'édifier les uns les autres. Il faut se fortifier les uns les autres. Mon frère, ma sœur, ne restons pas en arrière. Avançons, prenons courage. Ne laissons pas gagner le péché dans notre vie. Il gagne si facilement. Et je suis coupable, vous savez. Je ne veux pas prononcer des jugements sur vous. Mais mes propres paroles m'accusent. Je me dis, tu n'es pas assez. Tu n'es pas à la hauteur. Tu ne vas pas assez loin. C'est vous... Je vous le dis, on marche ensemble, on s'encourage les uns les autres. On est un peuple acquis. Nous ne sommes pas simplement là pour vivre une vie passive, mais notre vie est une vie vivante. Excusez-moi de dire la chose de cette manière-là, hein. En français ça ne se dit pas. Mais enfin, je vous le dis quand même, c'est une vie vivante. Parce qu'une vie est toujours vivante, hein. Mais c'est une vraie vie vivante, si vous voulez que je l'exprime d'une autre manière. C'est avec des perspectives spirituelles qui dépassent ce que l'homme peut imaginer. Nous sommes liés à la terre, liés à la matière, liés à des contraintes que nous subissons tous les jours. Et toutes ces choses, elles nous laissent croire, elles nous font croire, elles nous laissent penser que nous sommes limités à ces choses-là. Mais je peux vous dire... C'est l'enseignement de la parole de Dieu qui compte. Ce n'est pas ce que nous ressentons. Ce n'est pas ce que nous constatons. Ce n'est pas ce que nos mains touchent. C'est beaucoup plus que cela. C'est pour cela que nous devons nous laisser guider par la parole de Dieu. Parce que nous n'avons pas les bonnes perspectives en tant qu'êtres humains. Nous sommes limités. Nous avons besoin de ce que nous dit la parole de Dieu. Si la parole de Dieu nous dit « Vous êtes un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Vous êtes un saint sacerdoce pour offrir des victimes spirituelles. » C'est la parole de Dieu qui a raison. Même si vous avez des impressions d'une autre manière, c'est par la foi que nous marchons. Et je peux vous dire, faites les bons choix. Choisissez la vie. Choisissez la réalité éternelle. Parce que cette vie terrestre est limitée. Un jour, elle montrera ses limites. Elle montrera que nous sommes trompés. Nous avons fait les mauvais choix parce que nous avons choisi ce qui était matériel. Nous avons choisi des avantages immédiats alors que Dieu nous donnait des avantages spirituels et pour l'éternité. Je peux vous dire, vous pouvez être rejeté par les hommes. Vous pouvez choisir la gloire des hommes. Et là, vous choisissez la gloire des hommes, Dieu peut-être vous rejettera. Mais si vous choisissez la gloire de Dieu, vous risquez d'être rejeté par les hommes. Ils risquent de parler mal de vous. Ils risquent de vous... Vous risquez peut-être de dire les choses les yeux baissés, en rougissant et en pleurant. Et les gens vont dire, c'est un médiocre. C'est quelqu'un qui réussira jamais dans la vie. Ils peuvent dire ça de vous. Mais si vous réussissez dans la vie spirituelle, si votre éternité est réussie, eh bien vous aurez une couronne dans le ciel. Vous pouvez être méprisé des êtres humains, mais Jésus-Christ aussi a été méprisé. Vous êtes dans le bon chemin. C'est le chemin où on méprise. Et il y a toujours les esprits forts. Il y a toujours les gens qui se sentent supérieurs aux autres, qui sont les meilleurs dans leur esprit. Mais dans la réalité, ils sont petits. Ils sont médiocres, parce que les médiocres, c'est eux. Si vous faites les bons choix, si Jésus-Christ prend la première place dans votre vie, s'il est Seigneur de votre vie, si vous mettez vos mains et vos yeux, tout votre être à son service pour faire ce qu'il vous demande, alors, assurément, Dieu va être de votre côté. Il va vous encourager, il va vous fortifier, dès maintenant, mais dans l'éternité. Vous serez reçus comme les enfants du royaume, pas comme des étrangers. Certains, le Seigneur va dire, écoute, fais-toi oublier, tu n'as pas été à la hauteur, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Et là, il y aura des regrets, regrets éternels, et nous ne pourrons pas les changer. Parce que c'est maintenant que vous pouvez faire les bons choix, maintenant que vous pouvez dire, je désire que ma vie, elle compte pour l'éternité. Je ne veux pas vivre n'importe comment. Ma langue, je vais la garder dans ma poche. Je ne veux pas que mes yeux regardent des choses qui sont indignes de ma vocation céleste. Je ne veux pas que mes mains fassent des choses que plus tard je vais regretter et condamner. Je ne veux pas que mes pieds aillent là où il ne faudrait pas que j'aille. Je veux faire les choses qui sont à la gloire de Dieu. Parce que ce sont des choix. Rejetez. Mettez hors de question, hors de votre vie toutes ces choses, mais désirez, choisissez, approuvez ces choses qui sont éternelles, ces choses qui ont de la vraie valeur. Saisissez-les fortement et dites, personne ne me séparera de ces choses que j'ai choisies parce qu'elles sont à moi pour l'éternité. Je ne les laisserai pas passer.